Il est 7h47, Léa Salamé, votre invitée ce matin est chanteuse.
Oui, pas n'importe quelle chanteuse, Nicolas. La plus grande star francophone du moment. Un petit phénomène, écoutez et devinez.
Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Laisse-moi te chanter. Parler du fer. On parle de l'altitude, toi et moi. Loin de nous, ni l'un ni l'autre n'ira. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. Comment faire pour tuer mes démons?
Bonjour Angèle.
Bonjour.
Merci, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. À quelques jours des Victoires de la Musique où vous êtes nommée, votre deuxième album, qu'on entend certains des extraits sortis il y a quelques semaines, cartonne, plus de 180 000 albums vendus. Et pourtant, vous pensiez qu'après l'explosion du premier album, eh ben, celui-là serait moins fédérateur, qu'il marcherait moins. C'est raté.
Ouais, mince alors.
Vous allez entamer une grande tournée dans toute la France, à Reims, Bordeaux, Toulouse, Nice, puis Paris en décembre. Avec le Covid, ça va faire 2 ans que vous n'êtes pas monté sur scène. Vous flippez un peu, vous savez toujours comment on fait, c'est comme le vélo?
Bonne question. On va voir ça dans quelques mois. Je pense que c'est comme le vélo parce que je crois que même avant d'avoir fait des tournées, il y avait quelque chose où je savais un peu comment, c'était assez instinctif. Ce que j'ai un peu oublié, c'est le rapport au public. Et je me rends compte que dès que je vois des vidéos avec du public, j'ai envie de pleurer. Donc, il va falloir que je...
Pourquoi pleurer?
Parce que c'est trop d'émotions. Ça me manque parce que j'ai toujours été comme ça, très émotive et...
Oui, vous pleurez beaucoup.
Ouais, ça vient vite. Et c'est vrai que là, j'ai vite l'émotion qui monte. Et donc, je pense que le premier concert va être fort parce que je l'ai rêvé, quoi, ce concert.
En quelques chansons, il y a 3 ans, vous avez eu une ascension fulgurante. C'est vrai que vous aviez pourtant dit à votre famille, à vos parents qui sont aussi dans la musique, ouais, que jamais, au grand jamais, vous ferez de la musique votre métier. Vous parliez de quelque chose de dangereux et de même compliqué sur le plan de la santé mentale.
Oui, et je pense que je me suis pas trop trompée là-dessus. Parce que, en fait, quand on fait de la musique, c'est qu'on a peut-être des failles ou des choses à exprimer. Et puis, quand on devient connu en faisant de la musique, ça rajoute juste du poids aux failles. Et après, on peut régler certains problèmes. Il y a d'autres qui se règlent moins facilement quand on est exposé. Par contre, évidemment, à côté de ça, c'est un métier génial. Donc, c'est vraiment une balance à trouver. Mais c'est vrai que, moi, je pensais en tout cas que faire de la musique, c'était de toute façon se mettre en danger. Et je pensais que j'allais avoir un succès aussi. Donc...
Et vous confirmez que c'est se mettre en danger?
Je pense que c'est comme... Après, en fait, je crois que c'est juste aussi le fait de devenir aussi adulte et de faire un métier, c'est aussi ça. Mais c'est vrai que oui, un métier comme celui que je fais, il y a vraiment des aspects super beaux. Et c'est un peu comme une drogue aussi, un truc où on s'y habitue et en même temps on s'y habitue jamais complètement. Mais c'est vrai qu'il y a des risques qu'on prend. En fait, c'est sur le plan émotionnel, c'est méga intense, quoi.
Oui, c'est méga intense. D'ailleurs, vous dites, vous êtes dans un documentaire Netflix qui est très intéressant que j'ai vu. Vous dites qu'avec le succès du premier album, vous vous êtes perdu, ce qui est normal à 23 ans, parce que vous aviez 23 ans. Vous ne saviez plus qui vous étiez. Vous étiez obsédé, dites-vous, par vos images, par vos likes sur les réseaux sociaux, par le nombre de vues de vos clips. Vous dites, je sentais bien que c'était fake, mais il n'y avait plus que ça qui m'intéressait.
Ouais. Oui, et heureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Et c'est un peu, ça vient par vague, mais je crois que comme mon succès a existé grâce à ça, grâce aux réseaux sociaux, et en fait, finalement, quelque chose de très impalpable et de très difficile à concrétiser, c'est devenu par moments un peu la seule façon concrète de voir les choses. Et alors, heureusement qu'il y avait la scène. Parce que quand j'étais sur scène, alors tout ça n'existait plus et j'avais vraiment un public. Évidemment, ça a été rendu compliqué avec le Covid où il y a eu 2 ans sans public. Et donc, c'est vrai que de nouveau, je dois toujours faire attention à continuer à évoluer tout en sachant quelle posture avoir face aux réseaux sociaux. Et puis, il y a un truc où moi, j'ai grandi avec ça.
Oui, vous êtes en cela vraiment le modèle de votre génération. Parce que vous dites, sur Instagram, c'est une version améliorée de moi, c'est tous mes fantasmes. Et au fond, tous les jeunes de votre âge ont un dédoublement. C'est-à-dire qu'il y a leur vraie personne et il y a l'image qu'ils projettent sur les réseaux qui est améliorée, qui est narcissisée. Est-ce que ça, c'est dangereux?
Certainement. Moi, je me pose beaucoup de questions et je crois que j'ai vraiment pas encore trouvé toutes les réponses. Je crois que oui, je crois que les réseaux sociaux, évidemment, il y a une part de danger. C'est de nouveau une question d'équilibre, mais si je parle à titre personnel, c'est sûr qu'il y a eu des étapes. Et puis, je sens que je me cherche aussi. Je pense que et tout le monde se cherche. Je pense que c'est aussi difficile de comprendre l'impact réel qu'a une photo qu'on poste. Et puis, il y a quelque chose où j'ai l'impression que les gens qui postent peu sur les réseaux sont peut-être ceux qui ont peut-être le moins besoin. Et donc, c'est qu'il y a peut-être un problème avec ceux qui postent beaucoup.
Mais ça, c'est quoi le problème? Vous dites, j'aimerais ne pas... Vous dites cette phrase quand même, parce que bon, quand on voit combien vous êtes belle, vous dites, j'aimerais ne plus avoir besoin d'Instagram pour me sentir jolie.
Ben, ouf. Oui, parce qu'il y a des codes aussi. Les codes de beauté sont pas forcément... Alors, sont devenus... Il y a plus qu'un sens. Et je pense que c'est voué à changer. Je crois que c'est l'idée. Hein. Je pense que ce serait bien que justement ça se multiplie et qu'il y ait plein de beautés différentes et puis qu'il n'y ait plus une seule façon d'être beau ou d'être perçu comme beau. Mais je pense que les réseaux sociaux ont vraiment donné une direction. Et moi, quand je regarde TikTok, je me dis que je suis heureuse de ne pas avoir eu TikTok plus jeune. Je crois que ça m'aurait conditionnée à une façon de me regarder différemment dans le miroir. Mmh. Et je crois que c'est un combat, en fait. Et c'est quand on dit qu'on veut combattre les injonctions, je crois que c'est un combat au-delà du combat public de se dire c'est un truc personnel aussi, en fait.
Celle qui vous a permis de garder les pieds sur terre, de ne pas péter les plombs totalement, on le voit dans le documentaire, c'est Mamie Pilou.
Oui, ma grand-mère.
Grand-mère, elle est géniale, complètement brute de décoffrage, pas du tout impressionnée par vous et votre succès.
Pas du tout. Je pense qu'il y a, je suis pas sûre qu'elle a vraiment conscience de ce que ça représente. Comme il y a mon père qui est passé par là avant, qui est chanteur aussi, je pense qu'il a déjà préparé le terrain, en fait, où elle a eu un fils artiste alors qu'il venait pas du tout de ce milieu-là. Et puis, mon frère et moi, ouais, c'est en fait, elle est ultra fière et son regard, c'est il y a rien de plus pur, en fait. Et donc ça, c'est cool parce qu'en fait, il y a aussi, elle me ramène à quelque chose de plus réel. Et puis, enfin, toutes ces questions-là, finalement, elles perdent un peu le sens parce qu'on se dit, mais finalement, c'est chouette, quoi. Je fais de la musique, c'est bon.
Ouais, ça va, quoi.
Tout va bien.
Vous avez toujours peur de l'échec? Vous dites que c'est ce qui vous tétanise, c'est ce qui vous terrorise.
Oh oui, je pense, oui. Je pense que la peur de l'échec, ça fait partie de moi et je crois que... Après, c'est une bonne peur. Ça, j'ai pas l'impression que ce soit une peur qui soit paralysante, mais oui, la peur de l'échec, c'est aussi pareil, c'est personnel, finalement, en fait. Je réalise que c'est surtout la peur de se décevoir soi-même, en fait.
Mais vous êtes, pour ça, par peur de l'échec, vous êtes totalement contrôle fric. Ça, vous le dites, vous le reconnaissez. Oui. Vous vous scrutez tout, l'image, tout doit être impeccable. Est-ce qu'il y a la place pour la maladresse, pour l'accident? Est-ce que vous vous autorisez à parfois ne pas être dans une image parfaite?
Eh ben, c'est marrant parce que c'est exactement là. Je suis exactement là-dedans en ce moment en train de réaliser qu'il y a un truc où le succès a été tel, à un moment où il y avait beaucoup de maladresse et beaucoup de spontanéité et que je me posais pas toutes ces questions-là parce que j'avais pas le temps. Et puis, j'ai eu un peu plus le temps, plus le succès. Donc, je me suis dit maintenant, il faut que tout soit carré, que tout soit dans des petites boîtes et que ça soit hyper clean. Mais en fait, après, j'ai un peu perdu une sorte d'aspérité à l'intérieur. Et donc, j'essaie de retrouver cette spontanéité en ce moment. Et ça passe par des petites choses, mais c'est dans la façon dont je prépare. Par exemple, on parle des victoires. Les années précédentes, les victoires, c'était une source de stress parce que j'avais besoin que ça soit hyper parfait et que les victoires, c'est... Au moment même, on aime bien, mais l'avant, il est éprouvant parce que c'est une télé hyper importante. Cette année, j'ai pas envie de me mettre la pression, j'ai envie de m'amuser et j'ai réalisé la chance que j'avais ces dernières années en faisant ce métier. Et je me suis dit, mais en fait, moi, je dois pas faire ce métier que pour moi aussi, quoi. Il y a des gens qui regardent, il faut qu'ils prennent du plaisir en regardant la télé. Et je peux pas mettre du stress pour ça, en fait.
Et il y a une génération qui est votre génération, pour qui vous êtes un modèle. Comment vous la qualifiez, cette génération? On a dit beaucoup de mots, on a dit génération Covid, génération sacrifiée, génération Instagram, génération woke.
Franchement, j'ai pas le recul pour savoir ça. Mais bon, tous ces mots-là me parlent. Je pense qu'il faut parler des générations réseau, parce que c'est tellement important dans nos vies, et c'est tellement une addiction. Il y a très peu de gens, jusqu'à mon âge en tout cas, qui sont pas addicts à leur téléphone, et je crois que ça va certainement avoir un impact, pas que négatif, mais... Ça ne peut pas ne pas avoir d'impact sur nos vies plus tard.
Dernière question, souvent les Belges de France Inter, Charline Van Hanecker et Alexis Vizorek, se moquent de nous les Français, en nous trouvant bizarres, un peu fous, un peu tarés. Vous nous trouvez aussi bizarres, fous, et notamment dans cette période de campagne électorale, un peu hystérisée?
Alors, c'est vrai que la campagne électorale, c'est quelque chose qu'on connaît pas en Belgique parce que c'est la royauté. Et oui, c'est un spectacle un peu. Mais c'est un spectacle un peu flippant par moment, mais il y a quelque chose de spectaculaire. Et puis, moi, je dis toujours qu'il y a une différence entre la Belgique et la France, c'est que les enjeux sont pas les mêmes. C'est donc forcément l'approche n'est pas la même, quoi.
C'est plus grand en France, en fait.
Tout est plus grand, tout est plus important, tout est peut-être plus compliqué aussi.
Ah oui, ça je vous confirme. Sauf former un gouvernement, où c'est dur chez vous aussi.
Voilà, chacun ses trucs.
Merci beaucoup,
merci
Angèle. Bonne chance pour la suite, pour les victoires vendredi et ensuite pour la tournée. Merci d'être passé par France Inter.
France Inter.